Je peux me renseigner et vous tenir au courant. Ne prenez pas cette peine, inspecteur. Peut-être vaut-il mieux continuer de croire qu'elle a été élucidée de manière prompte et expéditive, mais que les inspecteurs en charge de l'enquête ont été si occupés par d'autres incidents qu'ils ont oublié de me prévenir. Parrish ne répondit rien. Il savait que le dossier était encore ouvert. Il le sentait. Et qui étaient les enquêteurs? Demanda-t-il. Bergen secoua la tête. Je ne m'en souviens plus. Il venait du commissariat le plus proche, près de l'angle de Gardner et Metropolitan, je crois. Je trouverai, dit Parrish. Vous croyez que votre fille et la nôtre ont été assassinées par la même personne? Demanda Bergen. Parrish haussa les épaules. Ça m'étonnerait, Madame Bergen, mais je ne dois rien laisser au hasard, vous comprenez? Parfois, c'est à peine plus qu'une formalité, et d'autres fois, ça donne des résultats. Bergen se leva et raccompagna Parrish à la porte. Merci de m'avoir accordé du temps, dit-il. Je vous en prie, inspecteur. Bonne chance. Parrish appela Radic depuis une cabine. Rentrez chez vous, Jimmy, dit-il. Je suis toujours à Williamsburg. Je prendrai le métro. Allez-y, passez une bonne soirée. Je rédigerai le rapport d'enquête en cours à mon retour.
Comment ça s'est passé?
Pas grand-chose de neuf. Deux ou trois choses à vérifier, mais rien de concret pour le moment.
Merci pour le rapport.
C'est bon, pas de problème. À demain. Parrish marcha un moment et trouva un petit restaurant. Il crevait de faim et de froid. Le plat du jour était un ragoût à base de viande impossible à identifier. Beaucoup de carottes, pas beaucoup de substance. Il le mangea tout de même. Après quoi, il prit le métro de Grand à Jefferson, marcha dans Flushing Avenue jusqu'à Stewart, puis sur la gauche, et longea les six blocs jusqu'à Scholes. Il tourna à droite et trouva le commissariat du 91e district à l'angle de Gardner et Metropolitan. Les flics furent plutôt obligeants. Le sergent à l'accueil lui trouva un agent en uniforme. Ce dernier lui montra où étaient conservées les archives, et à 19h, Parrish était assis dans la cantine du commissariat avec le dossier de Karen Pulaski ouvert devant lui. Tout semblait être là. La date et l'heure du coup de fil signalant la découverte du cadavre. Le numéro de téléphone. Le numéro de l'ambulance qui avait répondu à l'appel. Le nom, l'unité et le matricule du premier agent sur les lieux. Le numéro de référence de l'incident. Le nom de l'inspecteur en charge, Richard Franco. Le rapport du légiste. Les photos de la scène de crime étaient présentes, ainsi que les comptes rendus de la première enquête de voisinage. Les numéros de référence des pièces à conviction, telles que chaussures, vêtements, affaires. Le rapport du labo criminel et des numéros de référence pour les échantillons de peau, de cheveux et de sang, en vue d'éventuelles comparaisons ADN. Karen avait 16 ans. À en croire les photos de la scène de crime, elle ne semblait pas si différente de Rebecca. Visage frais, plein de jeunesse, cheveux blonds. Il y avait des abrasions similaires, des contusions et des marques de ligature au niveau du cou et de la gorge. Mais Karen n'avait pas été étranglée à main nue. Plutôt avec une cordelette, supposait Parrish, voire un câble. Il y avait des signes de rapports sexuels récents et même des résidus de sperme. Mais l'analyse ADN datée de janvier 2008 indiquait que l'échantillon ne correspondait à aucune des personnes figurant dans la base de données de New York. Karen semblait avoir été fille unique. Ses parents, Elizabeth et David Pulaski, vivaient à environ 9 rues de là, dans Truman Street. Ils travaillaient tous deux, le père en tant qu'analyste comptable, la mère en tant que réceptionniste dans un cabinet dentaire du coin. Karen était allée voir des amis le 26, le lendemain de Noël. Au dire de tous, elle était montée à bord d'un bus dans Irving Avenue face à Bushwick Park. Puis, elle s'était volatilisée. 2 jours plus tard, vers 16h le 28 décembre, son corps avait été retrouvé dans une benne à ordures, derrière un hôtel d'Humboldt Street. L'inspecteur Franco n'avait rien laissé au hasard. Il avait retrouvé le chauffeur du bus. Puis deux de ses passagers s'étaient présentés suite à un flash info diffusé le 29. Mais après ça, plus rien. Ni les amis de Karen, ni son petit ami, ni ses parents, ni les filles qu'elle fréquentait au centre commercial du quartier n'avaient la moindre idée de ce qui avait pu lui arriver. Elle avait au lycée des notes bien au-dessus de la moyenne, semblait heureuse à la maison, était jolie et appréciée. Si elle avait fugué, elle n'était pas allée loin. L'heure du décès, quoique rarement précise, indiquait que Karen avait poussé son dernier souffle entre 20h et minuit le soir du 27. La benne où son cadavre avait été retrouvé n'était pas le lieu du crime. Et celui-ci n'avait jamais été identifié. Il n'était pas rare d'avoir un créneau de 6, 12, voire 24 heures pour l'heure du décès. À moins d'avoir mesuré la température du foie sur place, le coroner adjoint avait dû se fier à la rigidité cadavérique. Celle-ci s'observe dans les petits muscles du visage et le bout des doigts en moins de 2 heures. Mais elle s'installe, puis se dissipe, et elle revient ensuite sur une période de temps plus longue, ce qui signifie que pour estimer avec précision l'heure du décès, la rigidité cadavérique doit être observée à 2 reprises à quelques heures d'écart. Et avec une scène de crime en extérieur, les choses se compliquent. Même avec une scène de crime en intérieur, les indices commencent à se détériorer dès que ça devient une scène de crime. Un inspecteur qui comprend ça s'occupe du cadavre en dernier. Le cadavre n'ira nulle part. Personne n'y touchera, alors que les fibres, les cheveux, les empreintes de pas, toutes les choses éphémères disparaîtront rapidement. En intérieur, on n'a pas affaire avec les rigueurs de la météo, le vent et la pluie qui effacent les traces. En intérieur, on sait chez qui on est. La porte a-t-elle été forcée? Et dans le cas contraire, peut-être que la victime connaissait son meurtrier. On peut avoir un immeuble où les habitants connaissent les allées et venues de leurs voisins, où un visage inconnu éveillera la curiosité. Les indices physiques laissés par un tueur sont beaucoup plus faciles à isoler dans une pièce fermée que dans une allée couverte de neige et jonchée de bouteilles brisées, de seringues usagées et de détritus. Ce qui est absent est souvent aussi important que ce qui est là. Et plus il y a de policiers, plus il devient difficile de contrôler la scène de crime. Même les enquêteurs les plus expérimentés se trompent. Et parfois le coroner adjoint, l'individu qui autorise qu'on touche au cadavre, entre en scène et effectue son premier examen avant même que l'inspecteur ait fini. La Sainte Trinité, indice physique, témoin oculaire et aveu. Sans les 2 premiers, il est rare d'obtenir le 3e. Dans les affaires de Rebecca Lange et de Karen Pulaski, il y avait peu d'indices physiques, pas de témoins oculaires, et en conséquence, personne à interroger. Les similarités entre les 2 affaires étaient l'âge approximatif et l'apparence des jeunes filles, ainsi que la cause du décès. Mais Rebecca avait été étranglée à main nue, alors que Karen avait été étranglée avec une corde. Parrish referma le dossier et le rapporta au bureau où il l'avait pris. Il quitta le commissariat du 91e district peu après 20 h, prit le métro jusqu'à Lorimer Street, changea et emprunta une autre ligne en direction de Brooklyn. Broadway, Flushing, Myrtle Willoughby, Bedford North Strand, sud-ouest vers Clinton, Washington, puis quelques minutes de marche dans Lafayette jusqu'à atteindre Claremont. Il s'arrêta à la boutique d'alcool située à l'angle de DeKalb et s'acheta une bouteille. Il avait de nouveau faim. Se demanda s'il restait des pizzas surgelées dans son appartement. Il prit le risque et n'alla pas à la supérette. Il pourrait toujours revenir s'il n'y avait rien chez lui. Le cas échéant, il pourrait toujours boire 2 verres de plus et carrément oublier de manger. Il attendit l'ascenseur, conscient qu'une autre personne attendait aussi. Il ne la salua pas jusqu'à ce que les portes s'ouvrent et s'aperçut alors que c'était la femme de l'étage d'en dessous. Madame Langham, croyait-il se souvenir. Sa fille était avec elle. Elle ne pouvait pas avoir plus de 7 ou 9 ans. Parrish tint la porte de l'ascenseur, les laissa entrer en premier, et il sourit à Madame Langham. La femme ne lui retourna pas son sourire. Soit elle savait qu'il était flic et n'approuvait pas, soit elle ne le savait pas et n'approuvait pas plus. Peut-être que la bouteille dans sa main n'arrangeait rien. Elle savait plus que probablement qu'il vivait seul. Et dans cet immeuble, qui n'était peut-être pas très différent d'une multitude d'autres immeubles à travers la ville, les gens n'appréciaient guère d'avoir un flic pour voisin. Jusqu'à ce qu'il se fasse cambrioler ou agresser dans la cage d'escalier. Alors vous deveniez la personne la plus importante du monde. Parrish était conscient que la petite fille le regardait fixement. Il baissa les yeux et lui fit un sourire. La fillette lui retourna un sourire radieux, un tel enthousiasme, une telle absence de préjugés. Parrish ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais fut interrompu par la mère qui imposa son autorité maternelle dans un murmure forcé. « Grace, arrête de regarder le monsieur, c'est mal poli !» Parrish regarda le sourire de la petite fille disparaître. Et l'ascenseur s'immobilisa alors, les portes s'ouvrirent, et Grace Langham et sa mère désapprobatrice sortirent. La fillette se retourna, tandis que les portes se refermaient.